les amphis d'Amicus. Chaque semaine, Amicus Radio invite des professeurs de droit, des chercheurs et des professionnels à venir faire cours dans leur spécialité. L'occasion pour un fin spécialiste de relever le défi de traiter en 5 épisodes d'une question juridique essentielle. Aujourd'hui, Elsa Savouré, avocate, dessine les contours des droits de l'homme au sein de l'entreprise. Troisième épisode, l'intégration des droits humains dans les entreprises.
Bonjour, nous allons voir dans cet épisode comment les entreprises intègrent dans leurs activités et dans leur chaîne de valeur le cadre normatif rattaché aux entreprises et aux droits humains. Nous serons rejoints dans la seconde partie de l'épisode par Charlotte Michon, qui conseille les entreprises en matière de droits humains et également sur la mise en œuvre de la loi sur le devoir de vigilance. Charlotte est également déléguée générale de l'association Entreprises pour les droits de l'homme, qui regroupe plusieurs entreprises internationales engagées sur le respect des droits humains. Pour commencer, voyons d'abord ce que ça signifie pour l'entreprise de respecter les droits humains. D'abord, et avant toute chose, cela signifie respecter le droit positif, c'est-à-dire la loi, relié directement ou indirectement au thème entreprise et droits humains. Il peut s'agir, par exemple, de respecter les dispositions législatives sur le reporting extra-financier. Certaines sociétés doivent préparer une déclaration de performance extra-financière et fournir des informations de nature sociale et environnementale sur leurs activités ou encore des informations sur les questions de respect des droits de l'homme. Plus en avant, les entreprises peuvent aussi, donc pour certaines qui rentrent dans le champ d'application de ces lois, donc mettre en œuvre la loi sur le devoir de vigilance, les lois sur l'esclavage moderne. Il s'agit aussi pour les entreprises de s'assurer du respect du droit du travail, qui contient aussi des dispositions, ne l'oublions pas, relatives aux droits humains des travailleurs. Il s'agit aussi de respecter, par exemple, le règlement européen sur la protection des données personnelles, etc., etc. Ensuite, respecter les droits humains pour les entreprises, pour toutes les entreprises, ça veut dire suivre les procédures des principes directeurs des Nations Unies. Les entreprises doivent identifier, prévenir, réparer les incidences négatives, effectives ou potentielles sur les droits humains qui surviennent dans leur chaîne de valeur. Alors pour ce faire, les entreprises mettent en place des politiques internes en matière de droits humains, des formations de leur personnel, des mécanismes de traitement des plaintes et de réparation des incidences négatives, des démarches de communication sur l'ensemble de ces mesures. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que toutes ces mesures sont articulées autour d'une procédure essentielle des principes directeurs. C'est la diligence raisonnable, qu'on appelle aussi en anglais « human rights due diligence ». Cette diligence raisonnable, elle doit permettre à l'entreprise d'identifier de manière continue les incidences négatives effectives et potentielles sur les droits humains de ses activités et de ses relations commerciales et d'agir en conséquence de son niveau d'implication et d'agir selon des processus qui sont décrits plus en avant dans les principes directeurs. Enfin, et de manière plus générale, respecter les droits de l'homme pour l'entreprise, ça passe aussi par l'incorporation par ces entreprises dans leur propre documentation de référence directe aux droits humains et en particulier aux principes directeurs qui sont régulièrement cités dans les politiques droits humains ou dans les codes éthiques des entreprises. Les entreprises ont également des chartes fournisseurs qui intègrent les droits humains. Elles ont également des clauses droits de l'homme dans certains de leurs contrats avec leurs partenaires commerciaux et même parfois avec leurs clients. Et ce faisant, cette intégration peut, sous certaines conditions, notamment dans les contrats, donner à ce droit mou des principes directeurs une force contraignante. Ces procédures exposées dans leurs grandes lignes, voyons maintenant quelle est leur utilité. Alors avant toute chose, elles servent à veiller au respect des droits humains des différents détenteurs de droits, par exemple les travailleurs, les communautés locales, les défenseurs des droits humains qui peuvent être impliqués dans la chaîne de valeur de l'entreprise. En s'attachant à prévenir les risques pour ces détenteurs de droits, l'entreprise peut aussi, dans le même temps, réduire ses propres risques liés au non-respect des droits humains. Alors, quels sont ces risques? Tout d'abord, il y a le risque juridique. Ne pas respecter les droits humains, ça veut dire pour l'entreprise s'exposer potentiellement à des actions en responsabilité civile, en responsabilité pénale, à des actions de groupe. Les droits de l'homme sont également de plus en plus invoqués dans des cas d'arbitrage d'investissement. Mais le risque pour l'entreprise, il n'est pas seulement juridique, c'est pas seulement un risque devant les tribunaux. C'est aussi un risque qui est opérationnel. Un projet qui n'est pas conduit dans le respect des droits humains, des travailleurs, des communautés locales, il peut générer des conflits avec les intéressés, mener à des grèves, des manifestations, des actions juridictionnelles, des projets retardés, suspendus, voire même des expropriations pour l'entreprise. c'est aussi un risque qui est un risque réputationnel. Les risques réputationnels, ils peuvent générer pour l'entreprise des pertes de marché, des détériorations de leur image, sur le court, sur le long terme, des jeunes qui n'iront pas travailler pour cette entreprise, etc., etc. Enfin, on a un risque qui est financier. Au stade de certains grands projets, ne pas respecter les droits humains, ça veut dire courir le risque pour l'entreprise d'être écartée de marché public, d'être écartée de financement bancaire, d'être écartée de financement d'institutions financières multilatérales qui ne courront pas le risque de financer des projets qui potentiellement ne respecteraient pas les droits humains. Enfin, certains investisseurs peuvent aussi désinvestir d'une société qui ne respecterait pas les droits humains. C'est le cas de fonds de pension, de fonds souverains. Et dans le même temps, la valorisation boursière d'une entreprise peut décliner, comme la valeur de certains actifs qui seraient soumis à des problèmes avec les communautés locales. Alors, ces risques exposés, tant pour les détenteurs de droits que pour l'entreprise, on voit toute l'importance de mettre en place les procédures dont nous parlions il y a quelques minutes. Et maintenant, je me tourne justement vers notre invitée, Charlotte Michon. Charlotte, d'après votre expérience aux côtés des entreprises, pour les accompagner, pour les conseiller, où en sont-elles justement ces entreprises dans la mise en place des procédures que nous avons évoquées ?
Oui, merci Elsa et bonjour à tous. Déjà pour dire qu'avant les lois récentes et les évolutions législatives, il y avait déjà des grandes entreprises internationales, et spécialement celles qui étaient dans les secteurs les plus à risque en matière de droits humains, qui avaient initié des démarches droits humains, qui avaient commencé à intégrer les droits humains dans leurs pratiques, essentiellement, et vous l'avez dit, pour gérer le risque réputationnel et répondre aux attentes de leurs parties prenantes. Alors aujourd'hui, la loi sur leur devoir de vigilance, la loi PACTE, pousse véritablement les entreprises à s'interroger sur la manière dont elles exercent leurs activités et à prendre en compte et donc identifier au préalable de manière exhaustive les impacts sociaux liés aux droits humains ou environnementaux de leurs activités et ce, partout dans le monde. Et bien évidemment, ces lois et l'application de ces lois par les entreprises font vraiment avancer les démarches en matière de droits humains. On a vu que la loi sur leur devoir de vigilance a véritablement permis de réinterroger les pratiques, de systématiser des processus à l'interne des entreprises, et ce, même dans les entreprises qui avaient déjà des démarches dites avancées en matière de droits humains. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus le choix. Elles doivent véritablement être en mesure de prouver les choix, de justifier des démarches qu'elles ont, et si besoin, devant le juge, et donc doivent objectiver et s'améliorer dans ce domaine. Ensuite, juste pour dire que si ce sont les grandes entreprises qui sont en premier lieu visées par la loi sur leur devoir de vigilance et vers qui les regards des parties prenantes se tournent en premier, il y aura des effets indirects sur les plus petites entreprises qui sont elles-mêmes fournisseurs, filiales, partenaires commerciaux de ces grandes entreprises. Et donc ces dernières leur demandent des engagements en matière de droits humains et finalement cascadent leurs propres obligations et avec l'application des lois et dans le temps, probablement, les petites entreprises aussi développeront des démarches robustes en matière de droits humains, en France comme à l'étranger, puisque la loi concerne les relations commerciales et les filiales en France comme à l'étranger.
Alors, merci beaucoup Charlotte. Donc, on voit la mobilisation des entreprises, mais il reste aussi plusieurs défis pour celles-ci.
Oui, tout à fait. Il y a encore beaucoup de défis qui sont essentiellement lié au fait que c'est quand même des démarches nouvelles qu'on demande aux entreprises, des processus nouveaux, et qu'il y a encore des efforts d'interprétation et de compréhension autour des démarches droits humains dans les entreprises. Déjà, vous l'avez dit, les démarches droits humains ont véritablement de larges implications. Ça couvre beaucoup, beaucoup d'enjeux, beaucoup, beaucoup de périmètres qui étaient déjà traités dans les entreprises, pas forcément identifiés comme tels, comme les RH, la sûreté, la privacy, les impacts sociétaux, les achats. Les démarches droits humains font aussi appel à beaucoup, beaucoup d'acteurs. Il y a les porteurs des démarches de ces enjeux, mais il y a aussi, et du fait des lois, toutes les directions liées aux conformités que sont le risque, le contrôle interne, l'audit interne, les juristes. Et il y a bien évidemment, et en premier lieu, les métiers et les pays, les directions opérationnelles qui sont en charge finalement de gérer les enjeux sur le terrain, puisque les enjeux droits humains sont par nature très liés au contexte d'activité dans les entreprises. Et donc, il y a un défi aujourd'hui pour les entreprises de s'assurer que tous ces acteurs déjà comprennent bien les enjeux droits humains, ce que sont les droits humains, et c'est pas inné dans une entreprise, comprennent l'objectif de la démarche de vigilance qui est de protéger les personnes et non l'entreprise. Et malgré tout, tous les gens dans l'entreprise ont plutôt l'habitude de protéger l'entreprise et de mettre en place des processus tournés vers l'entreprise et non vers les personnes. Et donc, il y a véritablement un besoin de s'assurer d'une vision commune et partagée entre tous les interacteurs internes, mais aussi externes, qui vont être amenés à juger les pratiques des entreprises. Et ensuite, le plus gros défi, je pense, aujourd'hui, c'est que l'entreprise doit s'assurer que ce soit, et on parle de grandes entreprises avec des milliers de fournisseurs et avec des activités dans beaucoup, beaucoup de pays, elle doit véritablement s'assurer que la démarche est effective au niveau opérationnel et qu'elle soit bien déployée partout et au plus bas niveau. Il s'agit de démarches de groupe et le titulaire de l'obligation juridique est bien la société mère. Cependant, elle sera elle-même évaluée par rapport à l'effectivité de la démarche et sa capacité à gérer des enjeux qui sont opérationnels, qui dépendent d'un site, qui dépendent d'un pays, d'une certaine activité. Et donc, le plus gros enjeu aujourd'hui, c'est arriver à le déployer de manière effective, ces démarches. Et ça nécessite, bien évidemment, et ça va prendre du temps, la formation et la sensibilisation de tous les acteurs, des dirigeants qui doivent porter et montrer l'exemple et prendre à leur compte finalement les démarches droits humains jusqu'aux opérationnels qui doivent l'appliquer.
Alors on voit aussi, Charlotte, que certaines entreprises craignent parfois de se mettre en situation de désavantage concurrentiel vis-à-vis d'autres entreprises qui ne respecteraient pas tout cet environnement normatif qui se développe en matière de droits humains. Qu'en pensez-vous ?
Alors oui, c'est effectivement des choses qu'on entend. Personnellement, je crois plus que les entreprises ont le choix finalement de respecter les droits humains ou pas. Je crois que c'est vraiment le sens de l'histoire. Et les entreprises elles-mêmes, souvent par le biais d'initiatives sectorielles, s'allient entre concurrents et pour pouvoir gérer, justement, apprendre à identifier leurs risques par rapport aux droits humains. Et donc mettant finalement le sujet des droits humains comme un sujet non concurrentiel. Peut-être qu'aujourd'hui, donc sur certains marchés, dans certains pays, par rapport à des entreprises qui ne se sont pas imposées les mêmes obligations ou qui n'ont pas les mêmes obligations réglementaires, les entreprises françaises ou européennes peuvent faire face à un désavantage concurrentiel. Et ça explique aussi la mobilisation, y compris des entreprises aujourd'hui, sur la nécessité de dépasser les cadres nationaux et d'aller vers des législations contraignantes au niveau européen et au niveau international. Et la nécessité aussi, bien évidemment, d'harmoniser les attentes qu'on attend sur les entreprises internationales qui sont soumises à plusieurs cadres juridiques et qui exercent partout.
Tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que l'Union européenne suit de près ce sujet entreprises et droits humains. Alors, finalement, pour conclure, on parle beaucoup des défis et des risques pour les entreprises qui sont liés aux droits humains. Mais le respect des droits humains ne peut-il pas être aussi une source d'opportunité pour les entreprises ?
Oui, oui, bien sûr. Et je l'ai dit, aujourd'hui, une entreprise qui ne prend pas en compte les considérations environnementales ou liées aux droits humains n'est pas viable sur le long terme. Et finalement, respecter les droits humains devient, et les entreprises l'ont compris, devient une condition pour exercer durablement les affaires. Plus qu'une simple gestion de risque, adopter une démarche robuste et proactive en matière de droits humains et la montrer à l'externe, puisque finalement la transparence est aussi très importante dans le cadre de ces démarches, c'est un moyen d'attirer, de sécuriser, de fidéliser toutes les parties prenantes de l'entreprise, de l'interne comme les salariés ou les actionnaires, à l'externe comme les investisseurs, et vous l'avez dit, ou les communautés locales autour du site qui acceptent finalement les activités de l'entreprise. Et c'est aujourd'hui un moyen, je pense que ça va se renforcer, de véritablement se créer des opportunités commerciales au niveau international. Ce qu'on peut dire, c'est que les démarches droits humains prennent vraiment beaucoup de temps pour s'ancrer dans les entreprises et pour se déployer. Et il est donc aujourd'hui nécessaire pour les entreprises d'anticiper le plus possible. Et je crois que ce sont les entreprises qui ont compris ça aujourd'hui, qui seront les mieux préparées pour l'avenir et en particulier pour les futurs développements législatifs qui vont arriver. Et il y en aura probablement, certainement.
Merci beaucoup Charlotte. Alors nous avons justement évoqué dans cet épisode les parties prenantes et nous allons nous intéresser plus précisément à celles-ci dans le prochain épisode.
Les amphis d'Amicus. Cet épisode des amphis d'Amicus a été préparé avec l'aide de Sarah Albertin, Camille Bloomberg et Olivia Cross, avec à la réalisation Mathieu Gasnier. Vous retrouverez toutes les références citées dans l'émission sur notre site internet amicus-radio.net, rubrique Les amphis d'Amicus. N'oubliez pas de vous abonner à cette émission et de nous suivre sur les réseaux sociaux.